Livre premier. La fascinante petite merveille. 1901-1906. Chapitre 1. Je ne me sens aucune affinité avec le milieu dans lequel je vis. Août 1901, avril 1902. Stillwater, une ferme sur la commune de Thornford, près de Goulburn. Nouvelle-Galles du Sud, hiver 1901, automne 1902. Parfaitement odieuse. Debout devant la pile de linge qu'elle repassait, Mrs. Franklin observait par la fenêtre l'aînée de ses 7 enfants, Stella, sa croix. Elle la voyait de dos, pressée contre la barrière au creux de la pente qui menait au champ désertique, les bras ouverts sur les planches du premier enclos, comme happée, au-delà des clôtures, par l'immensité du bush. À distance, Stella semblait encore plus petite et menue. Sa jupe, qu'elle avait remontée à mi-mollet sur ses jambes nues, son vieux chapeau de paille et la très longue natte brune qui lui tombait jusqu'aux reins accentuaient encore cette impression d'extrême jeunesse. Elle était toutefois âgée de 21 ans et pouvait se flatter d'avoir déjà reçu quelques rudes leçons de la vie. Mrs. Franklin ne la supportait plus. À la vérité, l'avait-elle jamais supportée? Stella ne lui causait que du souci. Seigneur, Seigneur, depuis sa naissance, quel égoïsme chez cet enfant! Et quelle incapacité à se mettre à la place des autres. Au fond, Stella ne pense qu'à elle. Et ce besoin, toujours, d'attirer sur elle la lumière, de se vouloir le centre du monde. Mrs. Franklin appuya de tout son poids sur la chemise qu'elle repassait. Les braises qu'elle avait placées à l'intérieur du fer exhalaient une dégoûtante odeur de charbon. Et les mouches, des centaines de mouches, très inhabituelles en cette saison, tournoyaient autour de son visage. Elle devait les chasser en secouant la tête ou en tapant du pied, comme les vaches dehors. Les nombreuses torsades enduites de glu qui pendaient du plafond, des rubans noirs d'insectes dont certains se débattaient encore, ne servaient à rien. Stella pouvait bien rêver d'évasion contre la barrière. Aujourd'hui était son jour de lessive. Qu'attendait-elle pour aller tourner les draps dans le baquet qui fumait à l'arrière de la maison? Et demain serait son jour de nettoyage. Après-demain, celui de la cuisson du pain et de la mise en pot des conserves. Seulement voilà, elle alléguait qu'elle abhorrait les tâches ménagères, qu'elle laissait échapper la vaisselle et la brisait, qu'elle n'était pas manuelle. Quoi alors? Une intellectuelle, peut-être? Comment pouvait-on se prétendre autre chose qu'une manuelle, justement, quand on était fille d'un fermier ruiné et qu'on avait quitté l'école à 16 ans? Encore une façon de se démarquer, cette haine des travaux domestiques et ce bâclage entêté. Non qu'elle fût fainéante. On pouvait le lui reconnaître. Pas trace chez elle de paresse véritable. Et quand elle acceptait enfin de se mettre à l'ouvrage, elle pouvait même se révéler d'une efficacité sans égale. Plus vite elle se débarrassait des corvées, mieux elle se portait. En revanche, le soin des animaux et du jardin, ça lui plaisait. Avec les bêtes et les plantes, elle était imbattable. Les fleurs autour de ces abominables baraquements en tôle, le mûrier et tous les eucalyptus, c'était à sa passion qu'on les devait. Elle adorait les arbres, tous les arbres. Sans parler des chevaux. Elle parvenait à s'entendre avec les étalons les plus rétifs et montait comme une diablesse. Pour le reste, c'était non. Toujours non. Avec elle, la bataille était continuelle, surtout. Les pensées de Mrs. Franklin, Susanna pour les intimes, tournait en boucle. Même transpirante, en galoche et en tablier, on pouvait voir que cette femme avait été belle. Elle restait grande, fine, d'une spectaculaire distinction. Les catastrophes qu'elle affrontait quotidiennement accentuaient encore son goût de la tenue. L'indigence la rendait pointilleuse sur les détails. C'était sa façon de survivre. L'adversité avait creusé ses traits jusqu'à les rendre secs, mais il arrivait qu'en société, elle redevint une maîtresse de maison pleine de grâce, aimable et accueillante. Un vieux réflexe de son éducation victorienne qui exigeait qu'on respectât les apparences. De la rigueur, de la pudeur en toutes choses. Même, et surtout, dans la pauvreté. Pas une plainte, pas un cri public. Pourtant, dans son for intérieur, sa voix n'était qu'amertume. en accomplissant ses devoirs de parfaite ménagère, elle égrenait mentalement ses griefs. Une suite de malheurs dont le principal responsable était son mari. Dire que John Morris avait été si séduisant. Sa beauté était un leurre. Que restait-il aujourd'hui du cavalier magnifique qu'il avait arraché aux plaines pour la conduire dans son ranch au pays d'en haut, une exploitation familiale vaste de plus de 80 000 hectares? Rien. Il ne restait rien. Plût au ciel qu'elle n'eût jamais rencontré cet homme. Elle ressassait inlassablement les erreurs du passé. Pourquoi s'était-il disputé avec ses frères? Pourquoi leur avait-il cédé ses parts de la maison paternelle? Et pourquoi leur avait-il vendu ses chevaux et ses vaches sous le prétexte que leur élevage en montagne ne rapportait plus assez? Quelle absence de jugement! Et cela parce qu'il voulait prendre son indépendance, voler de ses propres ailes. Encore faudrait-il en avoir des ailes, sans parler d'un minimum de sens pratique. Si l'on veut devenir producteur de lait, on n'emménage pas dans un endroit pelé où la sécheresse assoiffe et tue les bêtes. Un ivrogne aujourd'hui. Une loque. Quelle honte. Oui, quelle honte de devoir envoyer Stella dans les pubs pour le ramener ici, titubant dans la poussière de ce lieu ignoble. La déchéance, tous les maux dont souffrent mes enfants, notre chute, notre ruine, viennent de sa nullité. Et pourtant Stella, si dure avec moi, continue de l'adorer et de le protéger. Il est vrai que lui aussi la défend, justifiant toujours ses insolences par sa soif d'idéal. Quel rapport ? Moi aussi j'ai besoin d'idéal. Où croit-il qu'elle a pris son goût des livres, sinon chez moi, chez mes parents ? La bibliothèque de notre maison de Talbingo contenait tous les classiques. Et sa passion pour la musique, sinon sur mon piano. Dans ma jeunesse, j'en jouais, moi aussi. Je savais interpréter par cœur les valses de Chopin. Et je lisais. Je connaissais même des passages entiers des pièces de Shakespeare. Quant à mon cheval, ce n'était pas cette vieille carne dans l'écurie, mais un pur sang du nom de Lord Byron. Seulement voilà, on n'a pas toujours ce que l'on veut dans la vie. Il faut faire des concessions. Et cela, Stella ne l'a pas encore compris. Si elle s'obstine dans son refus de se marier, dans son refus de se placer comme gouvernante et dans son refus d'aider à la maison, que pourra-t-on en faire? Quand on est pauvre, on doit servir. Dire qu'elle se croit la grande victime de notre déclassement. Mrs. Franklin jeta un nouveau coup d'œil sur le terrain qui s'étendait bien au-delà de sa fille, cette propriété désertique qu'elle avait elle-même baptisée Stillwater, les eaux mortes, car la pluie, un lointain souvenir en cette période de sécheresse anormale durant l'hiver, n'y pénétrait pas et stagnait. Aucun ruisseau ici, pas de rivière, au mieux des mares de boue. Stella n'avait pas bougé. Mrs. Franklin supposait qu'elle attendait le coucher du soleil, le seul spectacle dont quiconque pouvait jouir dans cette désolation. Il serait d'un rouge incandescent, une boule de feu embrasant un à un, avec lenteur, chacun des grands eucalyptus qui hérissaient l'horizon. Féerique, comme d'habitude. À moins que Stella ne guette autre chose. La mère était assez intuitive pour avoir noté que depuis plusieurs mois, là-bas, autour des clôtures, il se passait ou se préparait un événement. Interrogée sur ce point, Laurel, la Benjamine, n'avait rien voulu dire. Elle avait seulement juré que Stella ne faisait rien de mal, que Stella ne recevait pas de lettres d'amour. Des lettres ? Il s'agissait donc de l'arrivée du sac postal. Le facteur passait trois fois par semaine. On ne savait jamais quel jour. Il laissait le courrier dans un vieux bidon de kérosène accroché à l'un des poteaux qui bordaient la route. Mais c'était sur la deuxième barrière, à 5 kilomètres d'ici. Et Mrs. Franklin avait interdit à Stella de prendre le cheval, le dernier déjà épuisé par la vieillesse, pour satisfaire un caprice qui pouvait attendre la messe du dimanche. La pile de linge, impeccablement amidonnée et pliée, bloquait maintenant la fenêtre et cachait la vue. Malgré son aigreur, Mrs. Franklin avançait vite. Restait encore à rentrer les vaches et à essayer de les traire. Restait surtout à tenter de les relever dans le champ. Le manque d'eau, le manque d'herbe les avaient rendues si maigres, si faibles, que certaines ne tenaient plus debout. Il faudrait passer des cordes sous leur ventre pour les soulever et les forcer à se remettre sur pied. Un labeur exténuant qui revenait aux jeunes adultes, à Stella et aux garçons.